voyage sauvage rêve, c'est la règle de trois de Nastassia Martin. Les voyages ont formé la jeunesse de cette petite fille franco-italienne, de parents chercheurs en politique sociale et globe-trotteur. Son prénom avec un J vient de loin lui aussi, une mission effectuée par son père en Russie. Sa vocation d'anthropologue est née à 13 ans en voyage en Namibie auprès des populations Imba. Ce fut ensuite la révélation du cercle arctique pour la thèse de son master à l'école des hautes études en sciences sociales avec Philippe Descola. Là-bas, elle étudie les Gwich'in, peuple de chasseurs-cueilleurs qui tentent de résister au modèle dominant. Puis le Kamtchatka russe, l'extrême-orient sibérien, chez les Évènes, où se cristallisent les problèmes de notre monde moderne. Le voyage, c'est celui qu'elle a fait entre les vivants et les morts à 29 ans, après avoir été attaquée et amochée par un ours. Ce voyage intérieur dont elle est revenue métamorphosée, elle le raconte dans Croire aux fauves. Sauvage, c'est la nature avec laquelle elle entretient une relation intense. Petite, ce rat des champs préférait grimper aux arbres et aux falaises plutôt que de fréquenter les rats des villes. Elle vit près des montagnes, c'est building à elle. Les âmes sauvages, c'est le titre d'un de ses livres. Elle est elle-même une âme sauvage, hors cadre, par nature. Ses amis, les Évènes, l'appelaient Matouka, l'ours, en raison de sa taille, sa musculature et son goût prononcé pour les myrtilles sauvages. Sauvages, ce sont les animaux. Entre l'humain et la bête, les frontières implosent d'après cette chercheuse passionnée par l'animisme. Rennes, loup, les animaux peuplent ses rêves comme si elle était habitée par la forêt. L'ours, encore lui, occupait déjà ses nuits avant la confrontation. Le rêve de Nastassia Martin, c'est que la crise écologique que nous traversons nous donne l'occasion de nous ressaisir pour faire monde autrement, un monde rêvé.
Nastassia Martin, Croire aux fauves, vos éditions verticales, j'avais oublié de le dire. Nastassia Martin, qui sont les Évènes, ce peuple indigène qui vit à l'est du Kamtchatka et avec lesquels vous travaillez ou chez lesquels vous faites des terrains régulièrement depuis 2015 ?
Alors, les Évènes sont un collectif d'éleveurs de rennes qui a migré depuis l'Altaï jusqu'au Kamtchatka et qui est arrivé au Kamtchatka au XVIIe siècle. Moi, je travaille plus spécifiquement avec un clan familial qui a abandonné l'élevage de rennes à la chute de l'Union soviétique et qui est reparti en forêt. Pour regagner son autonomie.
Ce que vous décrivez dans votre récit, ils sont repartis en forêt profonde, dans le ventre de la forêt, à 400 km de toute piste goudronnée, pour adopter un mode de vie qui les ramène quasiment au paléolithique, de chasseurs-cueilleurs. Ils sont en rupture, d'une certaine façon. Et vous avez rencontré là une femme, Daria, qui est devenue une seconde mère pour vous.
Oui, absolument. Alors, ils sont en rupture, oui et non. Ils vivent une vie différente que celle que nous menons dans la modernité, mais le choix de retourner en forêt, c'est de retisser un dialogue, justement, avec les êtres non humains qui parcourent leur territoire au quotidien.
C'est ça l'animisme, c'est considérer que tout ce qui est animal, plante, et pas seulement humain, est doté d'une intériorité, d'une intentionnalité.
D'une âme, oui, et donc cela veut dire que on peut dialoguer avec eux. Et le dialogue s'opère à la fois la nuit, lors des rêves, et aussi pendant la journée, lors de la chasse, par exemple.
Et ce rapport au monde, ce que Sylvain Tesson appelle l'amitié du monde, vous pensez qu'on l'a perdu, nous, habitants des villes, parce qu'on n'a plus justement cette fréquentation immédiate et quotidienne des plantes, des animaux?
Alors, juste une chose, pour l'amitié du monde, je ne sais pas, parce que les relations entre humains et non-humains dans la forêt du Kamtchatka ne sont pas nécessairement pacifiées et amicales. Ce n'est pas un paysage que l'on regarde, ce sont bien des êtres avec qui on est en relation, et c'est des relations qui peuvent être très, très violentes, parfois.
Pardonnez peut-être l'aspect élémentaire de ma question, mais qu'est-ce qu'on a à l'esprit? Quand on est face à face, on se trouve face à face avec un ours.
Pas grand-chose en réalité, ça va très très vite. Hein. C'est comme un battement de cils. Donc tout le travail ensuite, c'est justement de venir reconstruire, retisser autour tous les jalons que vous avez posés et que l'ours a peut-être lui aussi posé pour vous mener à cet endroit-là de la rencontre. Et je pense que c'est vraiment le sujet de Croire aux fauves, qui n'est pas juste le récit d'une expérience entre d'une rencontre entre une femme et un ours, mais bien qui questionne les frontières entre les mondes.
Pardonnez-moi de revenir à l'ours dont on parlait.
Vous êtes hanté par l'ours.
Voilà, vous avez donné la dimension.
Vous n'êtes pas le seul.
Vous avez donné la dimension presque spirituelle ou intérieure de cette rencontre. Mais cette rencontre, c'était quand même une lutte. Il vous a blessé. Vous vous êtes battu, en fait, avec cet ours.
Oui. En effet, il y a eu un combat que je relate dans le livre avec des mots écrits qui sont justement écrits pour la bonne raison que c'est pas quelque chose dont on a forcément envie de réévoquer à l'oral. Mais oui, j'invite les spectateurs à se reporter aux pages qui racontent.
C'est saisissant.
Comment il vous a mordu, comment vous aviez un piolet d'alpiniste et comment vous l'avez attaqué. Vous ne savez pas s'il a survécu dans un bon état, mais en tout cas, il a survécu.
Oui, bon, avec Daria, la chef de clan, nous sommes à peu près persuadés que l'ours a survécu aussi et qu'il va sa trajectoire très certainement en pensant à cet état. Étrange créature qui a transformé sa vie aussi.
D'autant que le fils de Daria, votre deuxième mère, vous a dit « Si cet ours t'a attaqué, c'est parce que tu as croisé son regard et qu'il a vu quelque chose dans tes yeux bleus qui le renvoyait à un fond commun, ce qui est tout à fait troublant, Nastassia Martin. »
Oui, absolument. Et c'est très important parce que ça brise avec cette idée très occidentale de l'altérité radicale des animaux qui est vraiment le propre du naturalisme. Alors que là, ce dont on se rend compte quand il dit « l'ours voit dans tes yeux le miroir de sa propre âme ». Eh bien, c'est exactement ça. C'est l'idée qu'il y a un fond commun, en fait, entre nous, les humains, et les animaux, qui fait qu'il y a des ponts, des points de jonction possibles qui peuvent être, d'ailleurs, à la source d'une telle rencontre et qui s'est préfigurée, comme je le raconte dans le livre, en rêve.
Parce que vous rêviez des ours et on vous appelait la Matoura.
Oui,
avant la rencontre.
Absolument, mais je voudrais juste dire qu'il n'y a absolument rien de magique là-dedans. Non. C'est juste qu'en fait, on se situe dans un univers, dans un monde, une cosmologie qui est reliée aux êtres de manière tout à fait différente de la nôtre.
Nadia, est-ce qu'on évoque avec vous des problématiques liées à la crise environnementale et à l'Arctique, donc à l'Alaska, où vous avez fait vos premiers terrains, Nastassia Martin, le réchauffement, notamment
parce que les rapports sur l'accélération du réchauffement se suivent et malheureusement se ressemblent. La semaine dernière, il y a un collectif de scientifiques qui a publié une étude, la dernière étude, sur le changement climatique donc de l'Arctique. Et les conclusions sont évidemment très alarmantes et les chiffres sont absolument spectaculaires. La température enregistrée en Arctique entre octobre 2018 et août 2019 a été supérieure de 1,9 degré par rapport à la moyenne enregistrée entre 1981 et 2010, c'est-à-dire que la zone se réchauffe à un rythme deux fois supérieur au reste du monde. Et ce qu'ils ont fait, surtout dans cette étude, ce qu'ils ont voulu faire, c'est démontrer les conséquences concrètes sur la vie des populations. Et pour ça, ils ont interrogé 10 représentants parmi les 70 populations indigènes de la région. Ils sont tous d'accord, ils rapportent tous qu'aujourd'hui, l'accès à la nourriture, ça s'est réduit et ça devient même dangereux aujourd'hui d'aller pêcher et d'aller chasser. Ça a changé leur vie quotidienne. Les Évènes, ils sont aux avant-postes de ce réchauffement climatique que nous, on décrit et qu'on ne vit pas vraiment, ils voient ce que nous, on ne voit pas. Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie ?
Oui, absolument. Enfin, c'est le sujet des âmes sauvages, mon premier livre sur les Gwich'in en Alaska, qui sont pour le coup un peu plus aux avant-postes que les Évènes, un peu plus au nord, en effet. Bah, c'est-à-dire que ça change tout. Nous, le changement climatique reste généralement quelque chose de très théorique, parce que jusqu'à preuve du contraire, quand vous vous levez le matin, le sol ne s'est pas dérobé sous vos pieds, alors que véritablement, dans le Grand Nord, le sol se dérobe sous leurs pieds, c'est-à-dire qu'avec la fonte du permafrost, les maisons s'effondrent, les animaux qu'ils chassent et dont ils ont besoin pour survivre au quotidien transforment leur trajectoire de migration ou ne migrent plus du tout. Et donc,
qui peuvent plus se nourrir, concrètement.
Absolument, sans parler des feux de forêt qui vous asphyxient un été sur deux dans les villages. Et de la glace qui s'amenuise et qui du coup aussi rend la chasse hivernale extrêmement, extrêmement difficile.
Une dernière chose, ces Évènes, chez qui vous faites des terrains réguliers d'anthropologie, ce sont des zadistes, sans le savoir, à leur façon.
Absolument. Oui, absolument. Le choix de retourner dans la forêt et justement de reprendre le dialogue avec les êtres qui les entourent est véritablement un choix politique dans la Russie actuelle. Donc oui, absolument, on peut dire ça.
On peut dire ça. Merci Nastassia.